Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, 2022, année de la hausse des salaires. C'est ce qu'annonce ce matin le président du MEDEF. Hausse de la paye pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Nous irons dans un salon de coiffure. La profession cherche plus de 10 000 collaborateurs. La mortalité routière repart à la hausse par rapport à 2019. En octobre, mortalité des piétons, cyclistes et seniors en particulier. Dans une demi-heure, ouverture du procès en appel de François Fillon. Cette affaire Fillon, mais aussi la condamnation d'un ancien président de la République, la flopée de plaintes contre le gouvernement dans le cadre de la pandémie, la judiciarisation de la vie politique va-t-elle trop loin? Ou est-ce que la France rattrape un retard dans ce domaine? 01 45 24 7000 pour vos questions et l'appli France Inter à 13h30. Notre invitée sera Cécile Guérin-Bargue, elle est professeure de droit public et nous irons à la cour d'appel dans le cadre du journal de 13h. 5 ans après le crash de François Fillon, la droite est à nouveau en quête d'un candidat. Deuxième débat hier avant le congrès début décembre. 40 000 militants de plus chez les LR. Ils veulent croire que le plus dur est derrière eux.
Ça va beaucoup mieux, on l'a vu lors du débat. Tous les candidats étaient unis et c'est ce que j'ai apprécié parce que pour une fois sur la scène médiatique, on a parlé du fond.
Reportage Anne Souhaitemont tout à l'heure dans le 13-14. Encore explosion dans un taxi hier à Liverpool. C'est un incident terroriste pour la police britannique. Quel est le plus cher, le nucléaire ou le renouvelable? Débat ce matin sur France Inter. Parole dans ce journal à un expert. Le pass culture bientôt élargi au moins de 18 ans. Vos rendez-vous après 13h30. Le vif de l'histoire, la crise à la frontière entre Pologne et Biélorussie. Rappel à Jean Lebrun, l'époque où les réfugiés étaient polonais. Le feuilleton, la vie pleine d'épreuves du chorégraphe Gervais Thomas Diatunga. Et puis dans C'est une chanson, la chanteuse Pauline Croze raconte l'importance d'un titre de Kezia Jones dans sa vocation. Rhythm is Love, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Beaucoup d'entreprises augmenteront les salaires au début de l'année prochaine. Ce sont les propos ce matin, entre analyse et promesses, de Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, le patronat. Il y a en ce moment, dit-il, des accords d'entreprise, des négociations. Il y en aura d'autres au début de l'année et des hausses de salaires à venir. Parce que les deux années passées n'ont pas été terribles de ce point de vue, parce qu'il y a de l'inflation et parce qu'on a du mal à recruter. Il cite le secteur de l'hôtellerie-restauration. Un autre secteur en difficulté, c'est la coiffure. Nous cherchons entre 10 et 12 000 collaborateurs dans toute la France, affirmait récemment le président de l'Union des entreprises de coiffure. Il estimait à la rentrée le manque de main-d'œuvre à 15 à 20% des effectifs. Illustration dans ce salon de Besançon, Marine Protet, France Bleu, Belfort-Montbéliard.
Patrice Binetruy est coiffeur depuis 30 ans et jamais en 3 décennies, il n'a eu autant de mal à recruter.
En temps normal, le recrutement, comme je suis président de notre jury d'examen, je m'occupe du syndicat de coiffure, je fais beaucoup d'artistique, j'ai la chance d'avoir toujours au moins 2 ou 3 CV d'avance. C'est la première fois de ma vie où j'ai pas de CV. J'ai vu personne pousser ma porte pour chercher à travailler avec nous.
Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Bouche à oreille, publication sur les réseaux sociaux. Patrice Binetruy dit avoir tout tenté.
C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a vraiment personne qui répond à notre attente, à nos annonces.
La faute, selon lui, à la crise du Covid-19.
Je pense qu'il y a une réflexion sur le travail global. Les collaborateurs n'ont plus forcément envie de travailler le samedi. S'ils ont des enfants, ils ne veulent plus travailler le mercredi. Alors, ils veulent bien travailler 3 jours, mais avec le même salaire. Donc, ça devient compliqué pour nous, les chefs d'entreprise.
D'autant qu'en parallèle, depuis la fin des confinements, le nombre de clients explose.
On rebosse très très bien. Il y a vraiment un besoin, les gens ont besoin esthétique, émotionnel, psychologique. Donc on reporte les rendez-vous à cette période-là, ce qui est rare. On a des rendez-vous pour 10-15 jours d'avance, alors qu'en temps normal, le mois de novembre, vous voyez, c'est beaucoup plus calme.
Et il est très inquiet à l'approche des fêtes de fin d'année. Il s'attend à une affluence record. Alors s'il n'arrive pas à recruter d'ici là, il prévoit d'ouvrir temporairement son salon le lundi, quitte à travailler 6 jours sur 7.
Et vers des hausses de salaire donc pour attirer la main-d'œuvre, mais pour augmenter les salaires, dit le président du MEDEF ce matin, il faut que les entreprises puissent augmenter les prix. C'est la spirale de l'inflation qui commence à inquiéter en Europe, en Espagne tout particulièrement. Inflation de 5,4% sur un an. Les syndicats de transporteurs routiers annoncent 3 jours de grève avant Noël. Le débat chez nos voisins européens en miroir de ce qui se passe en France, c'est aussi la 5e vague de Covid et cette décision radicale prise en Autriche où le taux d'incidence du virus est de 815, presque 10 fois ce qu'il est en France. Bonjour Isorias.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Vienne pour France Inter. Les non-vaccinés sont confinés en Autriche. Voilà la décision choc prise par le gouvernement. Très précisément, Isor, quelles sont les règles entrées en vigueur ce matin chez vous?
Eh bien, écoutez, ces règles concernent avant tout 2 millions d'Autrichiens qui désormais ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour faire leurs courses essentielles, pour s'aérer ou pour des soins médicaux. Ils peuvent également se rendre sur leur lieu de travail, mais à condition d'être testés. S'ils enfreignent ces règles, les non-vaccinés s'exposent à une amende de 500 euros et le ministre de l'Intérieur a promis des contrôles nombreux.
Confinement des non-vaccinés, donc, pour répondre à une situation sanitaire qui est très inquiétante en Autriche.
Oui, l'Autriche, un pays de 9 millions d'habitants, recense désormais 12 000 nouveaux cas quotidiens. Côté vaccination, seuls 65% des Autrichiens ont à ce jour reçu leurs deux doses de vaccin, un taux en deçà de la moyenne européenne. Ce confinement vise donc à convaincre les réticents de se faire vacciner, mais il est difficilement accepté par une partie de la population autrichienne, perçue comme une injustice par les non-vaccinés, mais aussi par certains vaccinés, à l'image de Cornelia, rencontrée dans les rue de Vienne.
Je trouve tout de même cela un peu choquant, car nous sommes tous dans le même bateau. Cela donne un peu l'impression d'une société divisée en deux classes. Je ne suis pas certaine que cela corresponde à l'idée de la démocratie et de l'égalité des droits, car il est également question de cela.
Certains doutent également de l'efficacité d'un tel confinement et craignent qu'il soit rapidement suivi d'un confinement pour toute la population autrichienne, une hypothèse pour le moment écartée par le gouvernement.
Isorias, en direct de Vienne, en Allemagne aussi, de nouvelles mesures de restriction devraient être bientôt annoncées. Retour du télétravail massif est en examen. Taux d'incidence 303 en Allemagne. Notons que le nombre de morts du Covid depuis le début de l'épidémie reste chez nos voisins inférieur à ce qu'il est en France, 98 000 contre 118 000 en France. Et chez nous, nous sommes à plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens. Désormais, on avait passé la barre des 5 000 fin octobre. Nous ne souhaitons pas un reconfinement des non-vaccinés, dit le chef des députés En Marche, la majorité à l'Assemblée, Christophe Castaner. Mais il ajoute, toutes les hypothèses sont sur la table. La méthode, dit encore Christophe Castaner, c'est vaccination et rappel. Rappel obligatoire pour ceux qui y sont éligibles s'ils veulent conserver leur passe sanitaire au-delà du 15 décembre. Et la menace fait effet, à en croire le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. 620 000 prises de rendez-vous depuis l'allocution d'Emmanuel Macron mardi soir. On a passé la barre des 4 millions de personnes ayant effectué leur rappel sur près de 8 millions éligibles. Cette accélération, elle est visible au vaccinodrome de Nancy, stade Marcel Picot. Reportage Julien Penaud, France Bleu Lorraine.
Le rythme des injections a plus que doublé depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron. Le vaccinodrome est passé d'une centaine de piqûres par jour à plus de 250, en majorité des personnes âgées comme Jean-Paul, 72 ans.
Pour être tranquille aussi pour les fêtes de fin d'année, on fait des sorties, soit des soirées dansantes ou des étés dansants, pour pouvoir danser tranquille, disons, par précaution.
La menace de perdre son pass sanitaire a également accéléré les choses pour Yvonne, 75 ans.
J'étais pas trop d'accord pour la faire, cette troisième dose, autant les deux autres. Mais là, bon, si on veut continuer à vivre un peu, bah, puisqu'il faudra le pass sanitaire.
Alors, madame, c'est une troisième dose ?
Oui.
Oui, la deuxième date de
7 mai.
Fabienne, je suis infirmière. Des gens qui viennent qui sont assez sympathiques. C'est cohérent, on en a fait deux, on en fait une troisième.
Épreuve que le discours du président a eu son effet, la fin de l'année commence déjà à être réservée. Thierry Péchet, responsable du vaccinodrome.
On a déjà beaucoup de rendez-vous pour décembre. Les gens sont prévoyants, donc dès qu'ils arrivent à 6 mois, ils s'inscrivent. Les personnes aussi ont peur de ce virus. On voit très bien que ça monte dans les pays limitrophes, l'Allemagne. Le virus, il n'a pas de frontières.
Les prises de rendez-vous vont continuer à s'accentuer, car après les plus de 65 ans, la troisième dose va s'ouvrir aux plus de 50 ans, courant décembre.
Le vaccin, donc, comme réponse à la cinquième vague de Covid. Et les gestes barrières, le masque est depuis ce matin à nouveau obligatoire dans toutes les écoles élémentaires. En Israël, on va bientôt vacciner les enfants 5-11 ans. Le gouvernement donne son feu vert. Les États-Unis ont commencé à le faire mardi dernier. Il y a 5 ans, comme en ce moment, nous étions en pré-campagne présidentielle. Et à droite, François Fillon s'apprêtait à créer la surprise en remportant la primaire face à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Il devenait le favori de la présidentielle. Puis il eut le crash. Fin janvier 2017, le canard enchaîné lançait l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope. Près de 5 ans plus tard, le procès en appel s'ouvre aujourd'hui à Paris. En première instance, l'ancien Premier ministre a été lourdement condamné. Il est question de plus d'un million d'euros bruts en tout. Bonjour, Laurélie Carrive.
Bonjour.
Revoilà donc les époux Fillon devant la justice, la Cour d'appel de Paris, pour s'expliquer sur les différents emplois de Pénélope Fillon, comme assistante parlementaire de son mari, puis de Marc Joulot, qui lui avait succédé, et de son emploi aussi à la Revue des Deux Mondes. Le procès, Laurélie, doit commencer dans une demi-heure.
Oui, et les époux Fillon sont attendus d'une minute à l'autre ici au palais de justice historique de Paris sur l'île de la Cité. Et pendant deux semaines, ils vont tenter de convaincre les juges que les différents emplois occupés par Pénélope Fillon entre 1998 et 2013 étaient bien réels malgré l'absence ou presque de traces écrites. Lors du procès en première instance, la défense n'a cessé de le marteler. Pénélope était les yeux et les oreilles de son mari dans la circonscription, une collaboratrice certes discrète mais néanmoins essentielle. Le tribunal en avait décidé autrement et prononcé une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme à l'encontre de François Fillon, 3 ans de prison avec sursis pour son épouse, 750 000 euros d'amende à eux deux et plus d'un million d'euros à verser à l'Assemblée nationale solidairement avec Marc Joulot. Aujourd'hui, François Fillon est retiré de la vie politique, retraité même, souligne son avocat, s'il siège au conseil d'administration d'un groupe pétrolier russe. Après sa condamnation en 2020, il a cessé toute activité au sein de la société de conseil Tikeo afin de préparer la bataille qu'il s'apprête à livrer ici, à compter d'aujourd'hui, devant la Cour d'appel de Paris.
Laurélie Carrive en direct du Palais de justice de Paris sur l'île de la Cité avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Alors que ce procès en appel s'ouvre, question sur la judiciarisation de la vie politique. Par ailleurs, des milliers de plaintes, par exemple, ont été déposées devant la Cour de justice de la République contre le gouvernement pour la gestion de la pandémie. C'est un des aspects de cette judiciarisation. Est-ce qu'elle va trop loin? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. À 13h30, notre invitée est la spécialiste de droit public, Cécile Guérin-Bargue. Comme il y a 5 ans, la droite attend le nom de son candidat à la présidentielle. Pas de vraie primaire cette année, mais un vote des militants lors d'un congrès. Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier, qui sera désigné? Dans le deuxième des 4 débats télévisés hier soir, les candidats ont avant tout parlé d'immigration et de sécurité. Ceux qui veulent participer au congrès comme électeurs ont jusqu'à demain pour prendre leur carte chez les Républicains. La perspective de ce congrès a provoqué un regain des adhésions et un regain d'énergie et de morale chez les militants, Anne Souhaitement.
Peu importe qui sera au final le candidat, Emmanuel, militante à Paris, a le sourire aux lèvres.
Moi je pense qu'aujourd'hui la droite républicaine est de retour.
La droite serait-elle sortie de la crise? Les adhérents sont en tout cas revenus, pas tous, mais 40 000 personnes ont repris leur carte depuis la rentrée. Ils seront donc plus de 120 000 à pouvoir voter pour choisir le candidat qui portera les couleurs LR à la présidentielle. Une campagne interne qui se passe plutôt bien pour l'instant, pas de guerre fratricide, ouf de soulagement pour Guillaume qui salue le travail du patron du parti.
Il a fait un bon boulot avec son club, il a rassemblé au lieu de diviser.
Des candidats qui ne se tapent pas dessus, mais débattent encore hier soir pour le plus grand plaisir d'Emmanuel.
Ça va beaucoup mieux, on l'a vu lors du débat. Tous les candidats étaient unis et c'est ce que j'ai apprécié parce que pour une fois, sur la scène médiatique, on a parlé du fond.
Emmanuel optimiste sur les chances de la droite en 2022.
Oui, j'y crois. Aujourd'hui, les Républicains sont très solides même si on n'a pas encore de candidat. Mais je pense que l'élection présidentielle va se cristalliser vers février-mars.
Tout comme Alexandre.
Je pense qu'ils ont leur chance d'être au moins au second tour. Ouais.
À défaut d'être bien placés dans les sondages, la droite redonne au moins un peu d'espoir à ses militants.
Et parmi les adversaires du candidat de droite, il y aura Marine Le Pen. La leader d'extrême droite était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info. Elle-même doit composer avec la concurrence d'Éric Zemmour, pas officiellement candidat. Voici ce qu'elle en dit.
C'est un concurrent sur les idées régaliennes. C'est un concurrent, il dit la même chose que nous. Mais d'ailleurs, dans ses propositions, moi, j'ai pas entendu une seule proposition, à part effectivement l'histoire des prénoms, qui soit différente en réalité. Non, elles sont plus immatures que celles que nous présentons. Pourquoi? Parce que nous les travaillons depuis très longtemps. Moi, j'ai rédigé un projet de loi, c'est rédigé, que je vais soumettre aux Français par référendum sur l'immigration dans lequel il y a l'intégralité des moyens, des leviers pour pouvoir régler le problème de l'immigration. Éric Zemmour est très loin de ce travail-là.
Marine Le Pen ce matin sur France Info, autre phrase clé de la pré-campagne, c'était ce matin sur France Inter, le candidat écologiste Yannick Jadot sur les coûts comparés du nucléaire et des énergies renouvelables.
Le nucléaire que propose Emmanuel Macron est au moins 2 fois plus cher que les énergies renouvelables.
C'est exact. Invité de ce journal, Yves Marignac. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Directeur du service d'études et d'information sur l'énergie Wise Paris, expert dans l'association Negawatt qui regroupe des professionnels de l'énergie et des citoyens. Les renouvelables sont-ils moins chers que le nucléaire, Yves Marignac?
Alors oui, Yannick Jadot a raison de le souligner. L'écart qu'il pointe est celui qui existe aujourd'hui entre les nouveaux projets d'énergie renouvelable, éolien notamment, et le coût projeté pour l'EPR de Flamanville. Il a raison aussi de souligner que ces deux filières font l'objet d'évolutions tout à fait opposées. Les coûts du nucléaire n'ont cessé d'augmenter et les projections pour des nouveaux réacteurs ne font pas exception à cette règle, alors que les renouvelables ont connu ces dernières années des réductions extrêmement importantes et sont aujourd'hui incontestablement beaucoup plus compétitives. Ça se mesure d'ailleurs au niveau mondial. L'an dernier, il y a eu 256 gigawatts de capacité de nouvelles installations renouvelables ajoutées dans le monde contre 0,4 gigawatts de nucléaire. Voilà, ce chiffre-là dit tout de leur compétitivité comparée aujourd'hui.
Dans les projets d'Emmanuel Macron, il y a aussi les projets de petites centrales. Est-ce que parmi leurs caractéristiques, il y a aussi celle de fournir du nucléaire à beaucoup moins cher?
Alors c'est un des objectifs initiaux de cette nouvelle mode pour ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires, en anglais Small Modular Reactor, donc les SMR. En fait, la filière nucléaire est confrontée à cette difficulté. Elle propose, particulièrement la filière française, des projets comme les réacteurs EPR qui sont extrêmement gros, extrêmement lourds, longs à développer et avec un risque très important sur l'investissement. Et elle est dépassée par l'agilité de déploiement beaucoup plus diffus des énergies renouvelables. Donc ces petits réacteurs modulaires, c'est une volonté d'y répondre. Les indications que l'on a aujourd'hui sur les coûts des tout premiers, il n'y en a que deux dans le monde, sont contraires à cet objectif, mais ce ne sont que des prototypes. Mais ce qu'on peut voir d'ores et déjà, c'est que les projections des acteurs qui portent ces projets de SMR ne font qu'augmenter. Et aujourd'hui, il est très probable que ces réacteurs ne seront pas plus compétitifs que les gros réacteurs de type EPR.
Alors on précise que vous plaidez, vous, pour le développement des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on calcule quand on compare ces deux types d'énergie? Et notamment, le déploiement des énergies renouvelables ne nécessite-t-il pas une remise en cause complète du circuit de distribution de l'électricité et de l'énergie?
Alors c'est effectivement un point essentiel et Léa Salamé, je crois, l'a rappelé ce matin en interrogeant Yannick Jadot en faisant référence au rapport de RTE sorti récemment, qui calcule justement ce que l'on appelle les coûts complets du système électrique, où il faut prendre en compte non seulement les moyens de production, et là, comme je vous l'indiquais, il n'y a pas photo aujourd'hui, mais aussi les coûts de l'ensemble du système. C'est assez complexe, ça prend en compte beaucoup d'éléments avec beaucoup d'incertitudes. Il y a effectivement l'enjeu de renforcer ce qu'on appelle le réseau de distribution pour intégrer des renouvelables, mais ce coût, en fait, il existe dans tous les scénarios et dans tous les modèles, parce que aucun scénario ne s'appuie sur la reconduction du modèle hyper centralisé qui est celui que la France a développé à partir des années 70. Et dans les écarts de coûts que calcule RTE, l'essentiel vient plutôt de ce qu'on appelle les coûts de flexibilité, des moyens de stockage, d'interconnexion, que des coûts de distribution.
Néanmoins, Yves Marignac, je vous ai bien compris, si l'on n'intègre pas seulement les coûts de production, il y a davantage bataille entre nucléaire et renouvelable.
Alors il y a davantage bataille, effectivement. C'est d'abord en soi un résultat extrêmement important et relativement nouveau, même si des acteurs comme l'association Negawatt portent cette idée depuis longtemps. On a aujourd'hui devant nous clairement le choix entre une trajectoire allant vers 100% renouvelable et une trajectoire dans laquelle on reconstruit des réacteurs. Ces trajectoires permettent toutes les deux, c'est ce que dit le rapport RTE, d'atteindre la neutralité carbone et de maintenir la sécurité électrique, qui sont deux enjeux fondamentaux. Et maintenant, au niveau des coûts, c'est relativement serré et c'est en fait très dépendant des hypothèses que l'on retient sur les renouvelables d'un côté et le nucléaire de l'autre. Je vais peut-être l'illustrer par un exemple qui est un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le coût ou le taux de rémunération du capital, des investissements, oui. Qui est un taux qui reflète le risque associé à des investissements beaucoup moins risqués aujourd'hui dans les renouvelables que dans du nouveau nucléaire. RTE a appliqué le même taux de 4% pour toutes les filières. Dans une analyse de sensibilité, RTE indique que si l'on implique un taux de 7% pour le nucléaire, ce qui reflète davantage la réalité économique, eh bien l'avantage de coût pour des scénarios avec des nouveaux réacteurs par rapport à des scénarios avec des renouvelables est annulé. Et voilà, c'est juste une illustration parmi d'autres du fait que le calcul complet dépend de beaucoup d'hypothèses, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis de l'ensemble des hypothèses, la tendance historique et la projection est très claire. Elles évoluent toutes dans un sens qui est favorable économiquement à des trajectoires 100% renouvelables.
Merci Yves Marignac, qui appartient à l'association Négawatt, qui regroupe professionnels de l'énergie et citoyens et qui plaide pour le développement des énergies renouvelables. Plus 14% pour la première fois depuis le début de la pandémie, la mortalité routière augmente en octobre par rapport à 2019. On oublie 2020, année très particulière. Et ces chiffres semblent traduire les effets des nouveaux modes de circulation. La mortalité des automobilistes est en baisse, mais celle des cyclistes, des piétons et des personnes de plus de 65 ans augmente. La police britannique parle d'un incident terroriste, explosion d'un taxi hier devant un hôpital de Liverpool. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Que sait-on de cette affaire, Richard, vous qui êtes notre correspondant au Royaume-Uni ?
Alors ce que l'on sait, c'est une image déjà que l'on voit partout depuis hier. C'est une voiture en flammes après une explosion et une grande colonne de fumée noire. C'est une image que l'on voit sans cesse, je vous le disais. Une vidéo filmée par un jeune papa qui accompagnait sa femme qui accouchait. La peur de sa vie, a-t-il dit. Ce véhicule, ce taxi, s'est garé en fin de matinée sur le parking quasi désert de la maternité de Liverpool. Le chauffeur est sorti aussitôt et s'est enfui. Il a été blessé par la déflagration, mais aujourd'hui, il va bien. Le maire de Liverpool le qualifie même de héros. L'homme aurait verrouillé les portes de sa voiture en sortant parce qu'à l'intérieur, la seule victime de cette explosion, c'est le passager et il est monté dans la voiture avec cette bombe. La police dit aujourd'hui que la cible était sans doute l'hôpital lui-même et décrète donc qu'il s'agit d'un attentat sans en connaître encore le motif. 4 personnes ont déjà été interpellées dans cette enquête qui, dès hier, avait été confiée au service antiterroriste.
Richard Place, correspondant de France Inter, à Londres, en direct avec nous. Immigration et défense, voilà deux sujets qui divisent de longue date les 27 pays de l'Union européenne. Eh bien, ils sont à nouveau sur la table aujourd'hui à Bruxelles. Réunion des ministres des Affaires étrangères. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. L'immigration d'abord et la dernière crise aiguë en date. Les milliers de personnes massées aux frontières est de l'Union européenne, à la frontière entre Pologne et Biélorussie. La dictature biélorusse est accusée d'avoir orchestré leur arrivée. On reçoit ce matin des déclarations contradictoires dans le sens de l'apaisement. Celle-ci, nous travaillons activement à faire rentrer chez eux les migrants, dit le président Loukachenko. Nous ne voulons aucun conflit à notre frontière. Mais d'un autre côté, il se dit prêt à riposter à de nouvelles sanctions européennes. L'Union en a pris depuis l'année dernière et sa réélection plus que contestée. Angélique, quelles nouvelles sanctions sont à présent envisagées ?
Eh bien, les 27 veulent cibler ceux qui jouent un rôle actif dans ce trafic de migrants, comme les compagnies aériennes ou les agences de voyage. Le chef de la diplomatie allemande, Ecomas, a indiqué tout à l'heure que les compagnies pourraient bien être interdites d'atterrissage en Europe. Une menace qui a déjà fait ses preuves, puisque la Turquie, par exemple, le carrefour aérien très important sur les routes migratoires, a interdit depuis vendredi aux Irakiens, Syriens et Yéménites de monter à bord des avions à destination de Minsk. Les 27 vont aussi cibler une trentaine de proches du président Loukachenko, en plus des 166 déjà sanctionnés. Et certains États veulent enfin durcir les sanctions économiques. Le commerce de produits pétroliers, de la potasse ou du tabac font déjà l'objet de restrictions, mais elles ne sont pas assez sévères, estime le ministre lituanien des Affaires étrangères. La Lituanie qui dénonce avec force le rôle de Moscou. La Russie utilise cette crise pour tester l'Europe, a-t-il dit tout à l'heure. Et l'arme migratoire est selon lui une très bonne arme.
Autre volet de cette réunion des ministres européens des Affaires étrangères, la défense dans cette crise entre Pologne et Biélorussie. Des soldats se font face à face de part et d'autre de la frontière. Il y a aussi le rôle de troupes de la Russie qui masse à nouveau des troupes à la frontière ukrainienne par ailleurs. Le chef de la diplomatie européenne, Angélique, présente plus en détail ce qu'il appelle une boussole stratégique.
Oui, c'est un livre blanc sur la défense qui doit permettre de lister les menaces actuelles pour les Européens et identifier les moyens à mobiliser pour y répondre dans l'avenir. Cette guerre hybride qui consiste à instrumentaliser des migrations en est une de menaces. L'agressivité de la Russie, le désengagement américain, les relations difficiles avec la Turquie font aussi partie des préoccupations majeures. L'Europe est en danger, les Européens ne s'en rendent pas compte, disait hier dans le journal du dimanche le chef de la diplomatie, Josep Borrell. Il propose entre autres mesures une meilleure coordination des armées nationales. Il veut doter l'Union d'une force militaire d'intervention rapide. Sa boussole sera débattue par les 27 dans les tout prochains mois pour une adoption espérée sous présidence française.
Angélique Bon, en direct de Bruxelles, l'OTAN et l'Allemagne appellent la Russie à la retenue à la frontière avec l'Ukraine. En bref, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande au groupe Facebook la fermeture du compte Instagram des Dalton, ces rappeurs de la région de Lyon qui défient la police en multipliant les images de rodéos urbains. Facebook et la maison mère du réseau social Instagram. Les détails sur cette histoire sont sur franceinter.fr. 300 euros à dépenser dans le domaine de la culture. C'est le pass culture. Il était jusque-là réservé aux plus de 18 ans. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Il va être élargi aux 15-18 ans.
Ah oui, ça rentrera en vigueur en janvier. Une cagnotte de 20 euros quand les ados soufflent leur 15e bougie et 30 euros supplémentaires lors du 16e puis du 17e anniversaire. Cet élargissement du pass culture ouvre désormais une enveloppe de 380 euros à dépenser entre 15 et 20 ans, puisque la somme reste valable 2 ans. Ce sont les ados nés en 2007 et qui auront donc 15 ans l'an prochain qui seront les plus jeunes à profiter du nouveau dispositif. Ils consommeront peut-être des mangas, des places de concert ou de ciné, puisque ce sont pour le moment les achats privilégiés par les détenteurs d'un pass culture. Le théâtre, les instruments de musique ou encore les cours de dessin sont en revanche à la traîne. Autre nouveauté, Bruno, dès 2022, cette fois-ci à destination des équipes pédagogiques des collèges et des lycées. Un total de 120 euros par élève, partie de la quatrième à la terminale pour financer des projets de classe. Ce pass culture nouvelle génération devrait concerner près de 800 000 jeunes chaque année pour un budget annuel frôlant les 180 millions d'euros.
Quant à l'équipe de France de football, elle a décroché ce week-end son pass pour le Qatar où se tiendra la prochaine Coupe du Monde de foot. 8-0, la victoire écrasante contre le Kazakhstan. Il y a 9 équipes désormais qualifiées pour cette Coupe du Monde. Pour certaines, le chemin de croix n'est pas terminé. C'est le cas notamment du Portugal qui s'est incliné à domicile face à la Serbie 2-1 hier soir et la défaite passe mal dans le pays, Winnie Claret.
Misérable, une honte mondiale, l'éclipse totale. Voilà les unes de la presse portugaise ce matin qui rivalisent de dureté pour qualifier la défaite de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers face à la Serbie hier soir à l'Estadio de la Luz, glaçant les près de 60 000 spectateurs présents. Les Serbes, eux, se qualifient pour la troisième Coupe du Monde de leur histoire alors que le Portugal va devoir passer par les barrages, mini-tournoi qui joue en mars prochain. Alors côté qualifié, vous l'avez dit, on compte déjà 9 nations, 7 européennes, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique. Il y a aussi le Brésil et puis le Qatar, le pays hôte, exempté de phase préliminaire. Ce soir, l'Italie, la Suisse, mais aussi l'Angleterre ou la Pologne vont jouer pour grossir les rangs des participants. Alors si on fait les comptes sur 210 pays engagés dans les éliminatoires, parfois depuis plus de 2 ans pour les confédérations africaines et asiatiques, ils seront finalement 32 à disputer le mondial dans un an.
Et cette Coupe du Monde, effectivement, dans un an, 21 novembre, une Coupe du Monde à l'automne et même au début de l'hiver, ce sera exceptionnel. Dans un instant, sur France Inter, la météo, puis l'invité du 13-14.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de fille qui vomit dans le caniveau. Personne ne s'écroule par terre. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Testez-vous sur alcomètre.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de Santé publique France.
France Inter aime.
Monet, Renoir, Chagall, voyage en Méditerranée, actuellement au bassin de lumière. Plongez dans l'univers immersif des bassins de lumière de la base sous-marine de Bordeaux à la rencontre d'une vingtaine d'artistes et autant de regards sur la Méditerranée. Un voyage au cœur des chefs-d'œuvre et aux origines de l'impressionnisme. Monet, Renoir, Chagall, voyage en Méditerranée. À découvrir en ce moment au bassin de lumière à Bordeaux. Un événement France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alpes, Maritimes et Var sont en vigilance orange pour vent violent.
Oui, la dépression Blas se situe en ce moment entre la Corse et les Alpes-Maritimes et un bref coup de vent, mais très fort, touche les Alpes-Maritimes et le Var jusqu'en milieu d'après-midi. Des rafales jusqu'à 100 à 120 km à l'heure attendues sur le littoral. On a déjà eu 114 km à l'heure au Dramont, 124 à Peille, c'est à 1100 mètres d'altitude. Des averses également autour de la Méditerranée cet après-midi, en particulier sur la Corse et la région PACA, avec un orage possible sur les côtes. Sur les Alpes frontalières, encore de bonnes chutes de neige attendues à partir de 1600 mètres. Et puis ailleurs, c'est gris. Alors on trouve tout de même quelques éclaircies vers la Bretagne, le Cotentin ou alors du côté du sud-ouest. Les températures, elles baissent un peu. Elles sont à peu près de saison, 9 à 14 degrés, jusqu'à 19 autour de la Méditerranée. Demain, ça va s'arranger pour le sud-est, mais ailleurs, ce sera toujours bien gris et humide.
Et donc encore de la pluie en Corse. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Le procès en appel de François Fillon commence aujourd'hui. Il doit commencer dans les minutes qui viennent à Paris. Entre les contrats d'assistante parlementaire attribués à son épouse Pénélope et ceux de ses enfants, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle est accusé d'avoir détourné plus d'un million d'euros bruts. En première instance, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. Ces contrats correspondaient-ils à des emplois fictifs ? Non, répond la défense, qui pointe également les conditions dans lesquelles l'enquête a été menée. L'affaire, vous vous en souvenez, avait éclaté en pleine campagne présidentielle et avait marqué une incursion inédite des juges dans une campagne présidentielle. Depuis, dans d'autres affaires, ont suivi 2 condamnations d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il a fait appel. La mise en examen, une première, du ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti. Autre élément, depuis le début de l'épidémie de Covid, des milliers de plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République qui juge les ministres en exercice pour leur gestion de cette pandémie. Agnès Buzyn, jadis à la santé, est mise en examen. Olivier Véran et Édouard Philippe font l'objet d'enquêtes, autant d'affaires très différentes. Mais il y a un mois, en ouvrant les états généraux de la justice, le président de la République avait mis en garde contre la judiciarisation de la vie politique. Jamais, disait-il, nous ne devons rendre impossible la décision publique. Alors dans la balance des pouvoirs, est-ce qu'on est allé trop loin côté judiciaire ou bien la France rattrape-t-elle un retard, par exemple sur les pays scandinaves, régulièrement cités comme modèle de probité? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions. Notre invité jusqu'à 13h45 est Cécile Guérin-Bargue, professeure de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonjour madame.
Bonjour Bruno Devic.
Est-ce que vous avez déjà connu des moments de tension comparable entre politique et magistrat ?
Alors, des moments de tension comparables, peut-être pas à ce niveau-là. Oui. Néanmoins, il y a déjà eu des tensions très fortes, notamment dans les années 90, lorsqu'on a vu monter en puissance le juge judiciaire, s'appuyant d'ailleurs sur le recours aux médias. Et on a vu à ce moment-là éclater un certain nombre d'affaires politico-judiciaires, ce dont on n'avait pas l'habitude, puisque jusque-là, le juge s'était montré plutôt frileux à l'égard des politiques.
Vous dites tout de suite, s'appuyant sur des révélations des médias, il y a un parallèle entre cette judiciarisation de la vie politique et aussi l'intérêt ou les enquêtes des médias dans ces domaines, les deux vont de pair.
Oui, je pense que les deux vont assez largement de pair. C'était le cas dans les années 90, c'est plus encore le cas maintenant, probablement avec aussi la montée en puissance des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, d'enquêtes plus poussées d'un certain nombre de médias qui font effectivement sortir les affaires. Et on a vu que le secret de l'instruction n'était pas chose particulièrement bien gardée en France.
Ce qui vous choque, ou pour révéler des affaires et pour animer le débat public, cela passe aussi par là quelquefois?
Non, je crois que ça n'a rien de choquant, sauf peut-être évidemment les entraves au secret de l'instruction. Oui. Ce qui est parfois gênant, c'est qu'il peut y avoir des déclarations ou des informations qui sont données sans qu'on sache exactement l'origine. Et on ne peut pas nécessairement donner ses sources en tant que journaliste, et c'est bien normal. Mais qu'il y ait un appui sur les médias. Après tout, les médias font aussi vivre le débat public. Et donc, il est nécessaire qu'ils fassent ces enquêtes, ces investigations.
Alors, dans mon texte de présentation, j'ai placé côte à côte des affaires et des situations très différentes. Est-ce que vous voyez en effet un fil rouge, un mouvement de judiciarisation de la vie politique? Et au fond, dans quel cas, selon vous, cela relève-t-il de l'exercice normal de la justice dans une démocratie? Et dans quel cas peut-il y avoir des excès?
C'est une question délicate parce que, en effet, ça dépend beaucoup des affaires. Je crois que s'il y a un fil rouge, c'est très nettement le fait que les juges sont beaucoup moins frileux qu'hier à l'égard du pouvoir politique et qu'ils tendent à assumer de plus en plus un rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'ils essayent peut-être de remplir ce besoin ou de répondre à un besoin de responsabilité de l'homme politique qui se fait qui apparaît au sein de la société et auquel les juges essayent de répondre. Cela étant, on dit souvent aussi que l'un des phénomènes qui est assez marquant, c'est que cette judiciarisation de la vie publique viendrait en fait pallier les insuffisances de la responsabilité politique. C'est-à-dire que comme les hommes politiques ne sont plus assez responsables politiquement, ou que ces mécanismes qui sont au cœur de notre système de régime parlementaire ne fonctionneraient pas aussi bien qu'ils devraient, cette judiciarisation, si vous voulez, prendrait la place de ces mécanismes de responsabilité politique.
C'est un argument recevable de votre point de vue. Et quelle réforme il appelle, le cas échéant ?
Je ne suis pas certaine que l'argument soit totalement recevable, ou plus exactement, il me semble qu'on a de la responsabilité politique une vision très circonscrite, très petite. Pourquoi ? Parce que la responsabilité politique, c'est tout un ensemble d'éléments. C'est notamment le fait pour les hommes politiques de répondre de leur politique devant le Parlement, et ce n'est pas simplement le fait de censurer un gouvernement, de renverser le gouvernement. Pour être plus concrète, si vous voulez, il y a par exemple des commissions d'enquête parlementaire. Les commissions d'enquête parlementaire, elles existent, mais elles sont assez peu suivies par les médias et par l'opinion publique. Alors évidemment, il y a des exceptions, Outreau, Benalla, des choses comme ça. Oui. Mais au-delà de ça, par exemple, prenez l'enquête parlementaire sur la gestion du Covid, elle n'a pas été tellement médiatisée. En revanche, la mise en examen de Madame Buzyn devant la Cour de justice de la République, là, elle a été médiatisée. Comme si, en fait, il y avait une sorte de force d'attraction du prétoire, de force d'attraction du tribunal, qui, à mon avis, est plus forte encore que jadis.
Emmanuel Macron, en lançant les états généraux de la justice, à propos, justement, des plaintes devant la Cour de justice de la République, qui est appelée à juger les ministres dans le cadre de leurs fonctions, avait ses propos quand des responsables, ministres, fonctionnaires, élus, se trouvent cités dans une procédure pour une crise qui est encore en cours, on est loin de l'apaisement et de l'équilibre. Il parlait des plaintes dans le cadre du Covid. Agnès Buzyn a donc été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Et il y a des enquêtes ouvertes concernant Olivier Véran et Édouard Philippe. Qu'en dites-vous ?
Il faut évidemment faire la part de la dimension politique de ses propos. Néanmoins, si vous voulez, moi, ce qui me dérange dans cet appel de plus en plus fort à la Cour de justice de la République, c'est que dans le cas des ministres de la Santé, on va en réalité essayer de saisir par l'intermédiaire du droit pénal ce qui est en réalité une politique publique. On peut parfaitement considérer que nos ministres n'ont pas été bons, qu'ils ont été incompétents. Mais ce qu'il faut mettre en jeu alors, c'est leur responsabilité politique, qui est une responsabilité collective qui s'exerce normalement devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une responsabilité pénale parce que ce n'est pas une responsabilité individuelle. Et le droit pénal arrive très mal à saisir ces questions-là.
Alors, dans le même ordre d'idées, et puis ensuite on va au standard, à propos de l'affaire Fillon, puisque c'est l'actualité du jour, je voudrais vous citer les propos du philosophe Marcel Gauchet, dans son dernier livre. Il traite du quinquennat Macron et des conditions d'élection, et il a ces mots à propos de l'affaire Fillon. « Un candidat à la présidentielle est injusticiable comme un autre, mais les juges, dans cette affaire, intervenaient de manière inédite dans ce qui est l'élection la plus déterminante de la vie du pays. » Il y a un principe d'opportunité des poursuites qui a été violé. La révélation des faits dans la presse suffisait pour mettre le peuple français en position de trancher. En s'emparant de l'affaire, les juges ont tranché à sa place. Qu'en dites-vous, Cécile Guérin-Bargue ? Est-ce qu'il est Gaucher continue en disant « En ce sens, il y a eu coup d'État judiciaire ».
Je pense que, en l'espèce, l'argument du coup d'État, d'ailleurs, avait été repris à l'époque par les défenseurs
par François Fillon lui-même.
Il me semble qu'en l'espèce, c'est probablement un peu exagéré. Pourquoi ? Parce que, en effet, il y a un principe d'opportunité des poursuites. C'est vrai. Il y a également, et on pourra avancer dans ce sens, une tradition républicaine qui était celle d'une trêve. En période préélectorale, effectivement, on essayait de pas trop agiter les choses pour ne pas avoir d'incidence, peut-être, sur l'élection. Cela étant, en ce qui concerne cette trêve, la trêve aurait été longue parce que cette affaire a éclaté, sauf erreur de ma part, en janvier.
Oui.
Les élections avaient lieu en mai, donc oui, ça aurait été une trêve très longue. Et je suis certaine qu'on aurait reproché au parquet de n'avoir rien fait dans cette affaire. Oui. Donc je suis pas tout à fait convaincue par cet élément-là. Et puis par ailleurs, il me semble que en particulier lorsqu'on est face à un candidat qui fait campagne sur la probité, il est normal de savoir comment il l'entend.
Nous allons au standard et la question de Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Oui, moi vous me permettez d'appeler, je vous remercie de nous laisser la parole.
Je vous en prie.
À travers la question qui est posée, est-ce qu'il n'y a pas trop de judiciarisation de la vie politique ? Moi, oui. Je suis tenté de reformuler et puis de dire, est-ce qu'en fait le vrai sujet, c'est pas de vouloir dire, est-ce qu'on peut donner un peu plus d'impunité aux hommes politiques ? Et là je dis non, parce qu'en fait quand on voit récemment encore quelques affaires qui sont sorties et qui ont scandalisé pas mal de gens, comme par exemple l'affaire Balkany, où on emprisonne un homme politique pour des fautes qu'il a commises, il se fait libérer pour des raisons de santé, et 15 jours après on le voit danser la Lambarena sur la fête de la musique à la place de la Bastille, c'est un petit peu choquant. Et ce qui est choquant aussi, c'est de savoir, parce que votre invité parlait tout à l'heure des hommes politiques devant les juges, les hommes politiques ils passent pas tout le temps devant les juges, ils passent souvent devant leurs confrères ministres qui forment un tribunal un petit peu secret ou un petit peu entre collègues pour se disculper les uns les autres, et ça laisse aux citoyens le sentiment que y a la justice des politiques et la justice des citoyens, alors que les politiques sont des citoyens qui devraient donner l'exemple, et en fait ils montrent le mauvais exemple, à savoir ils passent à travers toutes les mailles du filet. Moi je suis né sous le général de Gaulle, et je peux vous dire que dans toute ma vie, j'en ai vu un bon nombre passer à travers les mailles du filet, et c'est pas forcément le bon exemple à donner aux électeurs.
Merci Pascal. Cécile Guérin-Bargue, ça amène deux questions. Y a-t-il dans le prononcé de la peine et dans l'application de la peine disons plus de largesse pour les hommes politiques, ou c'est les aménagements de peine classiques dont ils bénéficient, petit 1 ? Et je donnerai le petit 2 après.
Alors, plus de largesse pour les hommes politiques, là encore, tout dépend des tribunaux.
Ouais.
Notre auditeur là, faisait allusion aux ministres qui jugeraient, ouais. Alors c'est pas tout à fait ça, ce sont en réalité des parlementaires qui vont juger les ministres dans le cadre de la Cour de justice de la République. Là, effectivement, il y a clairement une certaine forme de bienveillance qui est contestable, notamment pour les affaires qui relèvent de défauts de probité, c'est-à-dire des affaires de détournement de fonds, etc. Est-ce qu'il y a plus de largesse en ce qui concerne les délits de droit commun dans l'application des peines ? Moi, j'en suis pas absolument certaine. Alors évidemment, l'image de Monsieur Balkany a fortement choqué, ouais. Et a raison. Cela étant, si on lui a fait un aménagement de peine, c'est parce que le droit le prévoyait et que son avocat était bon. Je suis pas certaine qu'il y ait eu complot. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut se méfier toujours de scinder les choses en deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement des politiciens corrompus dans leur ensemble, et des magistrats extrêmement vertueux de l'autre. Évidemment, la réalité sociale est beaucoup plus nuancée.
Vous avez répondu au petit 2 avec le petit 1, c'était sur la Cour de justice de la République et le fait que des parlementaires jugent d'autres politiques, donc c'est parfait. Autre intervention standard, celle de Francis, alors que, voilà, je rappelle l'affaire des sondages de l'Élysée et Nicolas Sarkozy appelé à témoigner, mais qui n'a pas été jugé parce qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle. Bonjour Francis.
Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Bonjour France Inter, et puis merci pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Je voulais demander quelle est l'origine le fondement juridique de l'immunité présidentielle. Pourquoi le président bénéficie-t-il d'une immunité ? Comment est-ce qu'on justifie ça ? Et puis si on le justifie, pourquoi ne s'étendrait-elle pas à ce moment-là à ses ministres ? Et on a aujourd'hui le cas d'Agnès Buzyn, qui est poursuivi pour son activité en tant que ministre, alors même qu'elle obéit au chef de l'État, qui, pour les instructions qu'il lui a données, ne sera pas lui-même poursuivi.
Alors, Cécile Guérin-Bargue, immunité, corrigez-moi si je dis une bêtise, immunité présidentielle, il ne peut en aucun cas être poursuivi aussi longtemps qu'il exerce son mandat, ne peut pas être poursuivi sans limite de temps pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions, sauf les cas de haute trahison, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Quel est le fondement juridique ?
Alors, le fondement juridique, c'est un article de la Constitution, c'est l'article 67 de la Constitution, qui prévoit en effet une immunité large au bénéfice du président de la République, avec une compensation qui est prévue à l'article suivant, une possibilité de destitution devant le Parlement réuni en haute cour. Le fondement, en réalité, c'est le fait que vient du fait que nous sommes dans un régime parlementaire, et donc le chef de l'État, traditionnellement dans un régime parlementaire, est considéré comme irresponsable politiquement et juridiquement. Alors, ça marche tout à fait dans un régime parlementaire classique, où le chef de l'État n'a pas énormément de pouvoir. Et effectivement, et comme le soulignait à raison votre auditeur, dans la Ve République, vous avez un chef de l'État qui a des prérogatives, oui, et qui exerce des prérogatives et qui est finalement un peu aux manettes, enfin très largement aux manettes. Oui. De sorte qu'il y a une forme, si vous voulez, de système là qui ne fonctionne plus tout à fait, puisque vous avez un président avec des prérogatives et néanmoins une irresponsabilité. Mais le système inverse, c'est-à-dire la suppression de l'irresponsabilité, n'en fonctionnerait pas nécessairement beaucoup mieux, parce que, quoi qu'on en dise, le président de la République n'est quand même pas tout à fait un citoyen comme les nôtres.
Et il y aurait risque de paralysie de l'action publique.
Bien sûr, il y aurait risque de paralysie de l'action publique pour, en raison de la multiplicité des plaintes. Quant aux ministres, oui, ils n'ont pas d'immunité, ils ont simplement un privilège de juridiction, la fameuse Cour de justice de la République.
Merci beaucoup Cécile Guérin-Barque d'être venue dans les studios de France Inter, vous qui êtes professeur de droit public à l'université Paris 2, Panthéon, Assas, et donc le procès Fillon qui commence à la Cour d'appel de Paris aujourd'hui même. Il est 13h45.
France Inter, le 13-14.
Il s'est ouvert il y a quelques minutes même, nous dit l'agence France Presse. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
À suivre dans ce 13-14, le vif de l'histoire quand les Polonais étaient eux-mêmes des migrants.
Et oui, c'était dans les années 1830 et tout au long du 19e siècle.
Ce sera dans 10 minutes. Avant cela, il y aura le feuilleton, portrait d'un chorégraphe à l'histoire incroyable. Vous verrez cela avec Stéphane Capron. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Elle vient de sortir un nouvel album, Après les heures grises, et elle va enchaîner les dates de tournée jusqu'à l'été. À votre micro aujourd'hui, la chanteuse Pauline Croze.
Qui sera notamment en concert demain au Trianon Transatlantique près de Rouen. Après demain sur la scène des Étoiles à Paris, puis jeudi ce sera à la Bouche d'Air à Nantes, l'occasion de donner à entendre les titres de son nouveau disque, composé comme les précédents, de manière très empirique.
Il y a des gens qui composent vraiment en se disant « Tiens, je veux partir de telle tonalité, tel accord ». Moi, c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment à l'oreille et au ressenti. C'est juste que je prends ma guitare et puis je commence à chantonner des trucs. Et il y a un moment, il y a une sorte de mélodie qui commence à se dessiner. Je continue un petit peu plus pour en faire quelque chose de plus solide et qui raconte vraiment une histoire. Parfois, le hasard fait bien les choses. Parfois, des belles choses naissent et après, je les peaufine.
C'est important pour vous, la guitare ?
Ouais, très important. C'est comme une amie et je ne peux pas me passer de jouer de la guitare. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. It's the ocean of the sea. Say, the ocean of the sea. I say, the ocean of the sea.
C'est donc la voix et la guitare du Nigérian Kezia Jones qu'a choisi de nous faire écouter Pauline Croze, son tune Rhythm is Love.
Le rythme, c'est l'amour, Bruno. Un extrait de son premier album. Elle a une importance capitale, cette chanson, dans la vie de Pauline Croze.
La première fois que j'ai entendu cette chanson, il s'est passé quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'est cette chanson et cet artiste qui m'ont donné envie de jouer de la guitare. Pourtant, mon premier choc esthétique musical, c'est les Beatles. J'adore les Beatles depuis que j'ai 8 ans. Il y a beaucoup de guitares. On pourrait se dire, pourquoi pas là ? Pas là. Donc, à 14 ans, j'écoute Kezia Jones et j'étais fascinée par son groove, quoi. Tout simplement, son groove, la chaleur de sa voix, la sensualité, le côté blues, soul, funk. Il y avait un mélange que je trouvais extra. Et en plus, le premier concert auquel j'ai assisté, c'était le concert de Kezia Jones à mes 16 ans, c'est-à-dire que ma sœur m'a offert une place quoi pour son concert au Bataclan et c'était génial. Color is lust because all of the sexual things we do in my mind I trust you to make them all colorful. Hey yeah.
the wintry boulevards.
Donc la guitare, c'est grâce à lui.
Tout à fait, grâce à Kezia Jones, que j'ai croisé plusieurs fois dans la rue sans oser l'aborder. Je l'ai croisé deux fois à Pigalle et puis j'ai jamais osé lui parler. Et ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait les Transmusicales de Rennes en 2003. Et l'artiste qui jouait juste avant, c'était Kezia Jones.
Et là, vous êtes allé voir.
Pareil non plus, je n'ai pas osé. Donc la prochaine fois que je rencontre, il faut vraiment que je me pousse aux fesses et que je lui dise tout ça. Mais j'ai peur de l'ennuyer, c'est débile. Hein.
Bah là, c'est une façon de lui dire.
Mais peut-être qu'il est derrière ce rideau. Allez, sors Kezia, je suis là.
Rhythm is Love, Kezia Jones, c'était donc Frédéric, le choix de la chanteuse Pauline Croze.
En concert demain à Sotteville-lès-Rouen, mercredi à Paris, jeudi à Nantes, et son nouvel album, c'est Après les heures grises.
À demain.
À demain.
Le feuilleton à présent est dans le feuilleton jusqu'à vendredi, une semaine dans la vie du chorégraphe Gervais Tomadiatunga. C'est l'histoire d'un survivant, il doit sa résurrection à la danse notamment. Il naît dans les années 80 à Brazzaville, République du Congo. Les années 90 sont celles de la guerre civile. Adolescent, il y participe contre sa volonté avant de vivre d'autres épreuves que nous vous raconterons dans les épisodes suivants. Aujourd'hui, la guerre civile. Il raconte à Stéphane Capron, depuis la région qu'il a accueillie ces dernières années en France, entre Ancenis, en région nantaise, et le Maine-et-Loire, au bord de la Loire, la traversée des fleuves, fil rouge de sa vie, entre les deux Congos aussi. Récit donc, alors qu'arrive sur scène son nouveau spectacle qui s'appelle « Réalité ».
Dans ce spectacle, c'est la musique qui donne le rythme. Donc si on n'a pas de la musique, je ne sais pas comment on va danser. C'est la musique qui nous donne le rythme. Donc si on n'a pas la musique, c'est pas possible. C'est ne plus réalité en fait. Ça va être une autre pièce.
Bonjour Gervais.
Enchanté. Merci d'être venu.
On va passer quelques temps avec vous, en immersion, dans votre création, pour parler de votre travail de chorégraphe. Et pour parler de vous également. Là, on est dans la phase de création encore. Vous êtes dans les derniers jours avant la prochaine création. Vous êtes encore au plateau avec l'ensemble de l'équipe artistique.
Oui, au fait, là, c'est notre avant-dernière résidence qu'on a, parce que le dernier, ça va être au théâtre de Quartier Libre à Ancenis.
C'est là où vous habitez.
C'est là où j'habite. Et c'est cette ville qui m'a donné aussi la chance, au fait, de me réinsérer. Parce que j'ai vécu là-bas pendant 8 ans. Et c'est là-bas que j'ai intégré un peu la culture française. Et voilà.
Gervais Tomadiatunga est aujourd'hui un chorégraphe reconnu. Il parcourt le monde avec ses créations, toutes autobiographiques. Elles racontent le destin d'un enfant qui a su sortir de l'enfer. Comme plus de 30 000 enfants au plus fort de la guerre civile en République démocratique du Congo, Gervais, adolescent, est enrôlé dans l'armée rebelle. Son quotidien est fait de fuites, de contre-attaques, de marches interminables en forêt, de campements sommaires. Gervais a été enlevé à sa mère. Il avait 14 ans.
Je me rappelle en dormant avec mon grand frère et il y avait des rebelles qui sont venus te tuer chez ma maman à Massina. C'était un soir, il était minuit. Mais au départ, c'était pas nous qu'on venait chercher, c'était mon père, parce que mon papa, c'est un ancien parachutiste de l'armée française. Et donc du coup, le chef de rebelles, il venait déjà à la maison. Il connaissait mon papa, ma maman, mais mes parents, ils étaient séparés quand j'étais né. Donc mon père, il venait me voir à Massina, en fait, chez ma maman. Et il racontait souvent ses années de dot, quand ils étaient au Tchad avec l'armée française et tout ça, tout ce qu'ils vivaient avec l'armée française. Donc du coup, bah le chef, il captait l'histoire de mon père. Et donc pendant qu'il préparait son coup, bah, il a eu besoin des anciens combattants, qui kidnappait des anciens combattants. Donc il avait envoyé au fait ses éléments pour venir chercher tout simplement mon père, sauf que nous, on avait le pot cassé. Donc on m'avait pris avec mon frère cette nuit-là. On nous a mis dans une voiture noire, dans un coffre et direction inconnue.
Et quand vous sortez du coffre de la voiture ?
On s'est retrouvé dans une forêt avec beaucoup de gens et on a retrouvé ce chef de rebelles qui demandaient où il était notre papa. Et bon, moi j'étais jeune, je voyais beaucoup de gens avec des armes. Et mon frère, il disait, papa, il habite pas avec nous. En fait, il vient juste voir maman. Ils sont séparés. Il s'est passé des choses très horribles de ma vie ce jour-là. J'ai perdu mon frère.
Vous êtes resté combien de temps dans ce camp ?
4 ans. Je suis resté 4 ans. En fait, t'es coupé de tout. Donc, t'existes même plus. T'es une machine. Donc, et pour moi, c'était très, très long. Ouais.
Et comment vous en êtes sorti ?
Ah, j'ai fui. J'ai fui à Kinshasa parce qu'au Congo, on a des parties qui sont comme il y a le fleuve Congo qui nous sépare. Donc au fond de village, il y a des parties où tu peux traverser dans les pirogues qu'on appelle Boitou dans ma langue. Et j'avais fui avec des gens qui étaient là-bas parce qu'on avait marre. On comprenait que les chefs de rebelles, ils étaient juste là pour exploiter des jeunes, tuer les sudistes. Donc je me suis enfui avec des gens et c'est là où je me suis retrouvé à Kinshasa. Dans un premier temps à Gombe Matadi. Et comme ma maman, j'ai de la famille, son papa, il venait de la RDC. Donc j'ai retrouvé la famille de ma maman et c'est eux qui ont commencé à me ramener à aller travailler dans les mines. D'où vient mon histoire aujourd'hui que je témoigne dans ma pièce.
Et cette partie de sa vie, il la racontera demain à Stéphane Capron, Gervais Thomas Diatunga. Le feuilleton est réalisé par David Leprince.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, la pression migratoire qui s'exerce aujourd'hui sur la Pologne vous remet en mémoire les épreuves subies par les Polonais au 19e qui contraignirent beaucoup d'entre eux à l'émigration. Dans les années 1830, on a parlé de grande émigration.
Alors attention, les chiffres auxquels est parvenue récemment une équipe de chercheurs Asile Europe 19e siècle qui a étudié cette question ne sont pas comparables à ceux que connaît l'Europe de nos jours. Néanmoins, les Français contemporains ont eu l'impression de faire face à de véritables vagues migratoires qui les prenaient par surprise. D'autant que notre pays n'a pas eu à accueillir que des Polonais au 19e, mais aussi des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des Portugais libéraux. En 1829, après leur échec à prendre une île au large de leur pays, 700 Portugais ont rejoint d'un coup les côtes bretonnes. Mais les Polonais ont été constamment présents. Alors, rappelons que le pays n'existe plus dans les années 1830, partagé entre les puissances voisines. Néanmoins, la chanson « La Varsovienne » d'origine française ordonne « Polonais, à ta baïonnette, vive, vive la liberté !» Et les insurrections se répètent 1831, 1845, 1863. Les soldats des armées de libération nationale vaincues passent en France à pied par la Prusse et la Bavière, ou bien par mer. En 1849, 200 Polonais ont été embarqués manu militari sur le Gian Matteo au port autrichien de Trieste, destination forcée les États-Unis. Eh bien, les Polonais furieux prennent le commandement du bateau et contraignent le capitaine à les débarquer à Alger, terre française. Espèrent-ils entrer dans la jeune légion étrangère ou participer au mouvement de colonisation peuplante de l'Algérie?
1849, c'est la deuxième république conservatrice en France. Les autorités préfèrent en tout cas qu'il demeure de l'autre côté de la Méditerranée. Ils deviennent indésirables.
L'hospitalité est moindre au milieu du 19e qu'au lendemain de la révolution de juillet 1830. Je dis hospitalité, un devoir largement issu de la morale religieuse et qui s'impose parce que le malheur sacré doit être secouru. On va tout de même pas laisser les gens mourir de froid aux frontières. Mais les années passant, ce discours bienveillant est concurrencé par des considérations pragmatiques. Par exemple, question, où installer tous ces nouveaux venus? Alors la monarchie de juillet opte pour le logement dans des casernes de grands centres urbains. Pour les Polonais, c'est d'abord Besançon. Sans enfermement cependant, et avec des secours financiers individualisés. Le montant des subsides est déterminé par la position sociale du départ. Les généraux et les ministres polonais en exil touchent une aide financière de première classe, les artisans une aide de cinquième classe. Alors, vous riez, vous vous étonnez, oui. Ce soutien pécuniaire, Bruno, c'est aussi un moyen d'instaurer un contrôle.
Et les Polonais sont les obligés du gouvernement français. Qui veut vérifier qu'il ne manque pas à leurs obligations?
Oui, parce qu'ils font souvent du bruit dans les cabinets de lecture, du tapage dans les cafés. Il arrive même qu'ils veuillent imposer leurs pratiques religieuses hyper-catholiques. Ils obtiennent une église qui leur est propre, rue Saint-Honoré à Paris, qu'ils font desservir
par leur clergé national, bon, admettons, mais on les voit en 1832 assiéger le théâtre d'Avignon pour exiger l'interdiction d'une pièce qu'ils jugent anticatholique. Est-ce qu'ils passent pas les bornes, ces Polonais ?
Et en plus, ils s'ingéniaient à dissimuler leur identité ou leur nombre exact.
Oui, alors attention, hein, je répète, le chiffre est beaucoup plus faible que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont peut-être 32 000 réfugiés à toucher des subsides en 1840. Mais réfugiés, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque ? On tâtonne, on expérimente de nouveaux dispositifs d'accueil et de contrôle, et la monarchie de Juillet commence à construire la notion sans qu'il soit évidemment à l'époque question d'un droit d'asile.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et j'ajoute que Folio donne une édition de poche du livre de Delphine Diaz auquel vous vous référez, En exil, les réfugiés en Europe de la fin du XVIIIe siècle à nos jours.